OK. Donc, on est le lundi soir, le 27 avril, puis le printemps qui s'en vient. C'est qu'on va commencer notre étude dans Éphésiens. On est rendu dans Éphésiens au chapitre 5 et on est rendu au verset 15. Se conduire avec circonspection. Puis le mot conduire ici, c'est le même mot qui traduit marcher dans les autres. Donc, c'est de marcher avec circonspection ou se conduire avec circonspection. Ce que on va lire le passage, premièrement, on avait fait, la semaine passée, on avait fait de marcher comme des enfants de lumière. Maintenant, on va lire à partir du verset 15 du chapitre 5 de l'Épître aux Éphésiens. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Seigneur va bénir la lecture de sa parole ensemble ce soir. On va demander son aide. Seigneur notre Dieu, on te demande encore de nous aider dans ta parole. Notre Dieu, merci pour toutes les choses qui nous sont enseignées dans ta parole. On sait que au début de l'Église, toutes les situations qui sont arrivées ont fait en sorte que on a pu avoir des instructions dans toutes les circonstances qu'on se trouve. Puis on te remercie pour ça. Puis merci pour ton esprit qui nous dirige aussi. Merci pour tous ceux qui sont présents ce soir. Puis on te demande d'encourager, de fortifier tous, puis de nous bénir chacun. On est devant toi pour ta bénédiction au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. OK, donc on parle ici de se conduire avec circonspection ou de marcher avec circonspection. Puis le mot circonspection, dans l'original qu'on voit dans la Bible, il veut dire avec soin ou diligemment. Avec soin ou diligemment. Puis on retrouve le même mot dans Luc au chapitre 1, verset 3. Il dit, après avoir fait des recherches exactes, puis le mot exact ici, là, c'est le même mot qui traduit circonspection dans notre passage. Il dit, après avoir fait des recherches exactes sur toutes les choses. Donc, c'était vraiment avec minutieusement que Luc avait fait les recherches pour donner les faits tels qu'ils étaient arrivés avec précision. C'est ça que le mot veut dire. En anglais, dans la version anglaise, il dit, ayant une compréhension parfaite. C'est ça que le mot veut dire. Aussi, on retrouve le mot dans Matthieu 2, au verset 8, quand Hérode avait envoyé à Bethléem, disant d'aller, puis prenez, il avait dit, puis les envoyait à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Puis le mot exact ici, c'est le même mot encore là, qui est traduit diligemment ou qui est traduit avec circonspection. Donc, c'est d'une façon exacte pour être sûr, parce que lui, il voulait aller faire mourir le roi des Juifs qui était né, parce que lui, il était le roi des Juifs. Il ne voulait pas être remplacé. Donc, le mot exprime une exactitude qui est le fruit d'un grand soin. C'est d'avoir pris vraiment soin d'être exact dans ça. C'est ça que ça veut dire ici quand il nous dit de se conduire, prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection. Puis après ça, il nous dit, non comme des insensés, mais comme des sages. Donc, c'est un insensé, lui, il s'en va, puis il prend pas soin, il fait les choses n'importe comment. Mais pour nous qui sommes sauvés par le Seigneur Jésus-Christ, Paul, il nous instruit ici de faire attention, de marcher d'une façon exacte, puis pas comme des insensés, mais comme des sages. Le Seigneur, il nous a rendus sages en nous sauvant, il nous donne la sagesse parce que il nous montre sa volonté, puis pour qu'on puisse agir dans sa volonté. Donc, on n'agit pas comme des insensés, mais on agit comme des sages. Puis, ensuite, de ça, au verset 16, il nous dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Donc, on sait qu'on est ici sur la Terre, c'est pas long. On dit, dans Jean qui dit que notre vie est comme une vapeur qui paraît pour un instant, puis disparaît. Donc, c'est de racheter le temps, ça veut dire de prendre toutes les occasions, de ne pas perdre des occasions. C'est ça que ça veut dire. Le mot racheter ici, c'est le mot qu'on a pour comme rédemption. C'est le même mot où c'est exagorazo. Ça veut dire racheter ou secourir de la perte. Donc, secourir de la perte pour pas que ce soit perdu, pour pas que les opportunités soient perdues ou le temps soit perdu. Vine dit que ça veut dire rendre chaque opportunité des plus profitables en tournant chacune au meilleur avantage du fait qu'on ne peut pas recommencer si l'opportunité est perdue. Vous savez, des fois, on veut demander au Seigneur de nous donner une opportunité de témoigner, puis quand on voit l'opportunité arriver, si on la manque, ben, elle est perdue. Puis c'est pour ça qu'on fait attention quand on voit qu'une porte s'ouvre. On veut, c'est ça que ça veut dire, d'un sens, racheter le temps, c'est de ne pas perdre des occasions. Que c'est comme si c'était précieux, c'est précieux de faire la volonté du Seigneur. Puis il faut toujours être alerte, toujours prêt. Puis si on n'est pas alerte, ça passe, puis on l'a manqué. Et quand on l'a manqué, ben, on s'est perdu. Donc c'est pour ça qu'il veut dire racheter le temps. De l'empêcher de le secourir de la perte. Parce qu'on peut, ce serait le contraire de ça, ce serait de perdre notre temps. Mais on ne veut pas perdre notre temps, on a juste un temps à vivre. Quelqu'un disait que notre vie, là, c'est comme sur la pierre tombale, il y a une date, la date de naissance, puis la date de la mort, puis le petit trait entre les deux, là, c'est ça notre vie. C'est entre les deux dates, c'est ça qu'on a l'opportunité. Puis, à partir du moment qu'on a été sauvé, ben là, on a l'opportunité de servir le Seigneur. On le sert pour le glorifier, puis on le sert pour, à la fin, lui, il va récompenser. Alors, quand on va passer au tribunal de Christ, ça va être examiné, ce qui va être du bois, du foin, du chaume, ça va être consumé, c'est-à-dire des œuvres qui ne valent rien. Et il va avoir l'argent, l'or, les pierres précieuses, mais ça va rester. Puis le Seigneur va pouvoir récompenser. Donc, c'est toujours en vue, quand on va racheter le temps quand on a toujours en vue le jour qu'on va paraître devant le Seigneur, au tribunal de Christ. Donc, si on passe sa vie à rechercher ce qu'on doit faire, ben, on ne le fera pas. Il y a des gens qui ne s'avancent jamais parce qu'ils cherchent toujours c'est quoi qu'ils vont faire, puis on dirait que c'est comme s'ils ne trouvaient jamais. Comme quelqu'un qui disait à un moment donné à un homme de 80 ans, il dit, c'était quoi ton don? Ben, il dit, je pense que je. Mais non, il est trop tard, là. Si tu ne l'as pas trouvé à date, là, il commence à être tard pour le trouver, là. C'est pour ça que c'est important de découvrir son don, puis de le mettre à l'œuvre pour le Seigneur. C'est sûr qu'au début, notre don, ben, il faut l'exercer pour qu'il se développe, mais il faut le trouver rapidement, puis l'utiliser pour la gloire de Dieu. Quand on pense à l'assemblée locale, ben, dans l'assemblée locale, on a besoin de fonctionner dans notre don pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Donc, si on passe notre vie à chercher ce qu'on doit faire, dans ce temps-là, on ne le fait pas, là. C'est ça qui est important. Racheter le temps, car les jours sont mauvais. C'est vrai que les jours sont mauvais quand on pense dans le temps qu'on vit présentement. Mais vous savez, dernièrement, je lisais les petits prophètes, là, puis la déportation à Babylone, puis le peuple d'Israël, à ce moment-là, là, il était vraiment dans l'idolâtrie, il était désobéissant, il n'écoutait pas son Dieu, les prophètes les avertissaient. C'était vraiment un temps sombre. C'était un temps où le peuple perdait son temps. Mais il y avait des individus qu'on voit ils ont été déportés à Babylone, comme Daniel et ses amis, ses trois amis. Il y avait Jérémie aussi, Baruch, qui était dans le pays. Il y avait Ézéchiel qui était. Donc, il y avait des gens dans ce temps-là où c'était des temps sombres. Il y a des gens qui ont brillé, puis ils ont eu des révélations extraordinaires. Daniel a eu des révélations extraordinaires quand le peuple était pas ce qu'il devait être, mais lui, il était ce qu'il devait être. Puis ces gens-là ont été des témoignages puissants pour les rois qui les dominaient. On sait qu'ils ont été respectés, ces gens-là. On sait que Daniel a été respecté par Darius quand il l'a fait jeter dans la fosse au lion, mais il était triste. Puis il était content de voir quand il est revenu que les lions n'avaient pas attaqué, ils n'avaient pas tué Daniel. Fait que il y a ces gens-là, Shadrach, Meshach, puis Abednego aussi, ils ont démontré la puissance de Dieu. Donc, oui, on est dans des temps mauvais, mais c'est le temps de racheter le temps. C'est le temps d'utiliser les opportunités que le Seigneur nous a données. Donc, dans le verset 17, il disait, pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ça, c'est vraiment dans notre vie, c'est de rechercher la volonté du Seigneur. Connaissez-vous, on pourrait dire, connaissez-vous votre don, connaissez-vous votre ministère? C'est sûr, quand on est nouvellement sauvé, bien, ça prend un peu de temps pour le découvrir, mais on s'aperçoit quand on se met à l'œuvre. Quelqu'un disait, vous savez, un bateau, on ne peut pas le diriger s'il est arrêté. Mais quand il est en mouvement, ben là, on peut le diriger. C'est la même chose. Nous autres, on doit avancer. Ce que ta main trouve à faire, fais-le de tout ton cœur. Fais-le de toute ta force. Fais-le pour la gloire du Seigneur. Puis quand on avance comme ça, ben le Seigneur va nous diriger. Puis aussi, les autres dans l'assemblée vont voir notre don. Ils vont voir quand on avance, mais ils vont voir la facilité qu'on a dans certaines choses. Donc, qu'est-ce qui est important, c'est de connaître la volonté du Seigneur. Comme il dit ici, quelle est la volonté du Seigneur? Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ça, c'est vraiment important. Dans Éphésiens 2:10, il nous dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, selon ce verset-là, Dieu a un plan bien défini pour chacune de nos vies. Puis, ce qui est important pour nous, c'est de découvrir. Découvrir, c'est quoi sa volonté pour nous, qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse. Puis, vous savez, quand on regarde en arrière, on s'aperçoit, ah, oui, le Seigneur a permis que je passe là, puis je passe là, parce qu'il y avait d'autres choses en avant. Puis, tout, vous savez, quand on est à l'école du Seigneur, là, bien, on a un entraînement, on a des instructions vraiment adaptées pour chacun de nous autres. C'est des instructions individuelles. Puis le Seigneur nous fait passer des situations qui ne sont pas les mêmes les uns que les autres parce qu'il est en train de nous former, parce qu'il est en train de nous utiliser, puis il va nous faire faire les choses que lui veut qu'on fasse. Il est en train de nous équiper. Fait qu'on a vraiment une instruction personnelle de la part du Seigneur. Puis il fait ça à travers nos circonstances de la vie, puis il nous fait avancer là-dedans, puis il nous prépare pour des choses. Vous savez, quand on regarde en arrière, on s'aperçoit, ah, on a passé là, on a passé là, puis c'est important, on en a besoin dans notre situation. Mais le Seigneur, c'est lui. Il voit la fin à partir du commencement. Nous autres, tout ce qu'on a à faire, on ne le sait pas, mais tout ce qu'on a à faire, c'est d'être obéissant. Tout ce qu'on a à faire, c'est de découvrir, chercher sa volonté dans nos vies, puis l'accomplir avec la puissance que lui donne. C'est pour ça que, mais quand il nous dit dans le verset, qu'il nous dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme, ou que donnera-t-il en échange de son âme? C'est quand on a ici le mot âme, c'est le souffle, c'est la vie. C'est vraiment, le mot âme peut se définir par notre vie sur la terre. C'est que si on a une vie à vivre pour le Seigneur, mais si on ne la vit pas pour le Seigneur, ben, elle va être perdue. Puis avec tout l'argent qu'on aurait gagné, tout ce que le monde a de richesse, on ne pourra pas s'acheter avec ça une récompense éternelle. Mais avec une vie investie pour le Seigneur. Là, on a une récompense éternelle. C'est pour ça que c'est beaucoup plus important que n'importe quoi d'autre. Vous savez, il y avait un missionnaire, il était en Amérique du Sud, puis la compagnie d'huile, il voulait l'engager. C'était Shell, je pense, la compagnie pétrolière, parce qu'il parlait le langage des gens là. Puis les autres, ils voulaient l'engager. Fait qu'ils ont fait un offre. Puis lui, il a dit non. Ils ont mis plus d'argent. Il a dit non encore. Ils ont mis encore plus d'argent. Il a dit non encore. Mais il dit, c'est quoi le salaire que tu veux? Il dit, c'est pas le salaire qui fait défaut. C'est la job qui ne vaut pas la peine. C'est que lui, il servait le Seigneur, Puis sa job était plus importante que de travailler pour une compagnie pétrolière, même s'il donnait beaucoup d'argent, lui. Il dit, c'est pas l'argent qui l'intéressait, c'était vraiment d'investir sa vie pour le Seigneur. Il était un missionnaire pour prêcher l'Évangile dans ces régions-là. C'est que c'était plus important. Puis c'est pas fou de penser comme ça, là. Pour les gens du monde, c'est folie, mais pour nous autres, ben, c'est pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Paul, en écrivant à Timothée, qu'il considérait comme son enfant dans la foi, il lui disait dans 1 Timothée 4, 14, ne néglige pas le don qui est en toi. C'est important. C'est une instruction qui était sérieuse de la part de Paul. Il disait à Timothée, ne néglige pas le don qui est en toi. Vous savez, ça va demander d'exercer son don. Ça va nous demander des sacrifices, ça va nous demander de l'énergie, ça va nous demander de s'investir pour. Mais il dit, néglige pas, Timothée, néglige pas le don qui est en toi. Parce que si on néglige le don qui est en nous, ben les autres vont en souffrir. Ouais, on est un corps. On fonctionne ensemble. Vous savez, si à un moment donné, on se blesse, que ce soit un pied ou une jambe ou une main, ben le corps, il va continuer à fonctionner, mais il ne fonctionnera pas aussi bien, là. Il va avoir des difficultés à avancer et à accomplir la tâche qu'il a à accomplir parce qu'il y a un membre qui ne fonctionne pas. Fait que c'est la même chose. Si nous autres, on n'exerce pas le don que le Seigneur nous a donné, ben, les autres vont en souffrir. Parce que dans un sens, on dépend tous les uns des autres, puis on profite tous du don des autres. Donc, il faut que les autres profitent aussi de notre don. C'est comme ça que ça fonctionne dans le corps, là. Et donc, on est ensemble, puis pour marcher dans les bénédictions, on avait lu ça au chapitre 1, non? On est béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, en Jésus-Christ. Eh bien, on marche ensemble, puis on a besoin de tous fonctionner pour marcher, pour rentrer, pour prendre possession. On avait vu, hein, quand il avait dit dans Josué, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Donc, il fallait marcher. C'est pour ça qu'il nous faut aussi marcher avec circonspection pour posséder les bénédictions que le Seigneur nous a données. Vous savez, quand on est limité dans nos assemblées, moi, je crois vraiment que si dans nos assemblées, on est limité, c'est parce que on n'exerce pas tout notre don à sa pleine capacité. Parce que le Seigneur, il connaît, il sait donner, distribuer. C'est le Saint-Esprit qui distribue selon sa volonté les dons dans l'Assemblée. Mais si on ne fonctionne pas dans notre don, ben, c'est sûr que l'Assemblée va manquer. Ou si on ne fonctionne pas à la pleine capacité que le Seigneur pourrait nous donner de fonctionner, ben, il va y avoir des manques ici, là. Ce que c'est important ici de voir ça. Des fois, on ne veut pas s'engager, on choisit la voie facile. On veut être un passager, on veut aller, mais pas s'impliquer. C'est important de s'impliquer. On sait que dans les assemblées, mais il y a le sacerdoce de tous les croyants. Chacun a un service à faire dans l'assemblée, un ministère à faire dans l'assemblée par la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est important. Ensuite de ça, il nous dit au verset 18, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Donc ici, il compare on parle de des spiritueux ou de l'esprit de Dieu. Donc, il fait une comparaison entre le fait d'être rempli de vin ou rempli de l'esprit. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Donc, il y a des similitudes dans un sens, il y a des comparaisons à faire dans ça. C'est que si on est contrôlé par le vin, ben, ça va paraître dans notre parler, dans notre façon de marcher, dans notre façon de penser aussi. Ça fait que faut faire attention si c'est le vin qui nous contrôle. Mais si on est rempli de l'esprit, ben, ça va paraître aussi dans notre parler, ça va paraître dans nos actions, ça va paraître dans nos pensées. Ça commence dans nos pensées. Ça fait que si on va dans Romains 8, on va voir qu'est-ce que ça représente d'être rempli de l'esprit. Romains 8, au verset 5 jusqu'à 14, il nous parle de ça ici. Qu'est-ce que ça veut dire d'être rempli de l'Esprit? Au verset 5 de Romains 8, il dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Donc notre cœur, le Seigneur a dit, là où sera ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc ici, si on marche par l'esprit, on s'affectionne aux choses d'en haut, aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, on voit le fait, qu'est-ce que ça représente d'être rempli de l'esprit, là, c'est de vraiment s'affectionner aux choses d'en haut, de marcher selon l'esprit que le Seigneur a fait habiter en nous. Puis l'esprit, comme le Seigneur Jésus disait, l'esprit va nous conduire dans la vérité, dans toute la vérité, puis la vérité, c'est la parole de Dieu. Mais si on est rempli de vin, qu'est-ce qu'on va manifester? On va manifester la chair. Si on va dans Galates, au chapitre 19, au chapitre 5, Galates chapitre 5, et le verset 19 à 21, on va voir qu'est-ce que ça va faire, qu'est-ce que ça va démontrer dans notre vie. Donc, le verset 19 à 21 de Galates 5, il nous dit, Or, les œuvres de la chair sont évidentes. C'est pas quand quelqu'un il marche selon la chair, c'est facile à voir. Parce que, regardez ce que c'est, ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc, si on est rempli de vin, c'est ça qui va se manifester dans nos vies. Puis on le sait, hein, quand quelqu'un est rempli de vin, ben, il fait des choses qui sont graves, puis qui ne ferait pas normalement s'il n'était pas rempli de vin. Tandis que si on est rempli de l'esprit, ben là, on va faire des bonnes choses. Si on est rempli de l'esprit, ben là, c'est les versets 22 à 23. Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc là, on voit la différence entre le manifester la chair puis manifester l'esprit. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas être rempli de vin, il faut être rempli de l'esprit. Soyez au contraire rempli de l'esprit. Puis le verset 19, il nous dit, Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Donc comment on va être rempli de l'esprit? Ben, on voit que le Seigneur nous a donné des choses pour qu'on met dans notre pensée. C'est important ce qu'on met dans notre pensée. Si on met les choses du monde dans notre pensée, ben, c'est certain qu'on ne va pas s'attendre de manifester l'esprit parce qu'on va manifester le monde. Mais si on coupe les choses du monde puis qu'on se tourne vers les choses de l'esprit, les choses de la parole de Dieu, comme il nous dit ici, il nous dit de s'entretenir. Ça veut dire de garder notre pensée avec comment? Puis par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. C'est important ce qui va dans nos pensées. Ceux qui ne prennent pas garde à ce qui va dans leurs pensées, ben, ils n'ont pas de victoire. Mais ceux qui prennent garde, ils vont avoir la victoire parce qu'ils mettent des bonnes choses. Regardez, si on voit dans Colossiens 3, versets 1 à 4. Puis, je pense qu'aujourd'hui, dans le temps qu'on vit présentement, souvent le christianisme est faible parce qu'on ne prend pas au sérieux ces choses-là. Parce qu'on ne prend pas au sérieux qu'est-ce qui entre par nos yeux, par nos oreilles. qui va dans notre pensée. On ne prend pas soin. Mais au chapitre 3 de Colossiens, verset 1, il nous dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est ça qui est c'est important de garder nos pensées dans les choses d'en haut, les choses qui sont spirituelles. Puis c'est important, mais vous savez, il y a une chose qui arrive avec notre pensée. On ne peut pas arrêter de penser. Notre pensée, puis c'est ça des fois, hein, quand on pense tellement, des fois, on n'est même pas capable de dormir parce que nos pensées, ils continuent tout le temps. Puis des fois, nos pensées s'agitent. Fait que on ne peut pas arrêter de penser. Ça, mais on peut contrôler ce à quoi on va penser. Vous savez, c'est comme si, je vous disais, regardez, il y a une plume ici, là. Mais là, on se met à penser à cette plume-là. Puis, si je la mets dans ma poche, ben là, on continue à penser à cette plume-là, et puis là, on continue à y penser. Donc, qu'est-ce qu'on met devant nos yeux? Ben, c'est ça qu'on va penser. Puis, on est comme ça. Des fois, on va avoir pensé à quelque chose, ou on a vu quelque chose, puis ça nous revient tout le temps. À un moment donné, oups, ça nous revient. Ça nous revient. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut que nos pensées soient centrées sur les choses d'en haut. Puis c'est un petit peu comme si on prenait un élastique puis qu'on l'attachait à quelque chose. Puis avec l'élastique, on faisait le tour de toutes sortes de choses. Aussitôt qu'on lâche, il retourne où ce qui est attaché. Puis c'est comme ça qu'on doit, parce que c'est sûr qu'on agit dans le monde. Des fois, on travaille, il faut penser à notre travail. On conduit une automobile, c'est sûr, faut penser à ce qu'on fait quand on conduit une automobile. Mais si nos pensées sont centrées sur le Seigneur Jésus-Christ, aussitôt qu'on a un moment de libre, c'est comme si nos pensées retournent toujours au Seigneur. Mais comment est-ce qu'on fait pour ça, là? C'est pour garder nos pensées, là. Ben, comme il dit ici, là, vous savez, quand il parle de entretenez-vous, ça veut dire gardez toujours ça devant vous, là, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Vous savez, des cantiques, des psaumes, des hymnes, là, quand on chante quelque chose, là, ça reste dans notre pensée. Ça reste dans notre pensée, puis ça continue, ça revient constamment. Mais notre pensée, là, c'est vraiment le champ de bataille. Ça, c'est vraiment important. Si on va dans 2 Corinthiens 10, 2 Corinthiens 10, on va regarder les versets 3 à 5. C'est une bataille spirituelle, là. On parle de racheter le temps, on parle de se conduire avec circonspection, on parle de prendre toutes les opportunités, mais il faut vraiment qu'on travaille sur notre pensée. Les versets 3 à 5 de 2 Corinthiens 10, il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Si on sait que le Dieu de ce siècle, le prince de la puissance de l'air, lui, il aveugle l'intelligence de ceux qui périssent. Pourquoi? Ben, il les fait penser. Quand on parle amusement, là, ben, amusement ou divertissement, là, mais c'est pour distraire. L'amusement, ah, c'est la négation, puis muse, c'est penser. Amusement, c'est de ne pas penser. C'est pour ça que les gens, ils font toutes sortes de choses pour se changer d'idée, pour pas penser, mais pour pas penser à des choses. Mais il faut pas se laisser entraîner à ne pas penser aux choses spirituelles. Puis c'est sûr que c'est facile, parce que le monde dans lequel on vit, là, les autres, ils pensent pas aux choses spirituelles. Ils pensent à des choses vaines souvent. Il y a des choses qu'il faut penser que c'est important, mais des choses vaines souvent qu'on perd du temps à penser à ces choses-là. Donc, il faut vraiment amener, comme il dit ici, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Hein, c'est si on va chercher la volonté de Dieu pour l'accomplir, ben c'est comme ça que ça va être, on va avoir la victoire là-dedans. Mais comme je disais tantôt, des psaumes, des hymnes, des cantiques, C'est bon de. Vous savez, on les mémorise ces choses-là facilement. Puis quand on a. Ça vous arrive de vous réveiller le matin avec un chant dans la tête. On se réveille avec un chant dans la tête. Pourquoi? C'est parce qu'on l'a mis là auparavant. C'est pour ça que des fois, quand on se réunit ensemble, on chante des cantiques. Puis le Seigneur le faisait avec ses disciples aussi, chantait des cantiques. Pourquoi? Ben c'est parce que ces cantiques-là, à un moment donné, ce qu'on le chantait le dimanche ou le soir de notre réunion de prière, puis à un moment donné, ils reviennent à notre pensée. Parce qu'on l'a chanté, ils reviennent à notre pensée. Quand il nous parle de psaume, le mot psaume, là, ça veut dire gratter ou pincer avec les doigts sur une corde musicale. Ça, c'est un psaume, c'est un chant sacré. Mais c'est un chant avec accompagnement. On sait que David, il a écrit les psaumes, mais David, il avait sa harpe. Quand il gardait les brebis de son père, ben, il s'accompagnait de sa harpe pour chanter des cantiques, des psaumes à l'Éternel. C'est ça, le mot psaume veut dire, c'est un chant sacré ou un chant qui parle de Dieu avec un accompagnement. Puis, il dit s'entretenir dans ça. Ensuite de ça, un hymne, il dit par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Un hymne, ça dénote un chant de louange qui s'adresse à Dieu. Un hymne, c'est quelque chose qui s'adresse, on parle à Dieu en chantant un hymne. Donc, ça s'adresse directement à Dieu, tandis qu'un cantique ou un chant spirituel, un cantique ou un chant spirituel, c'est toujours utilisé dans le Nouveau Testament, pour la louange de Dieu ou Christ, c'est à propos de Dieu ou de Christ, c'est des choses spirituelles. Donc, c'est des cantiques qui s'adressent pas nécessairement à Dieu, mais qui parlent de Dieu ou du Seigneur Jésus-Christ. Puis ça garde nos pensées. C'est vraiment efficace pour garder nos pensées. Puis c'est sûr aussi, ben, il y a la parole de Dieu. Quand on passe le temps pour lire la parole de Dieu puis la méditer, ben, elle est mise dans notre pensée. Quand elle est mise dans notre pensée, souvent on arrive dans un moment de peut-être un moment de tentation ou un moment de difficulté, puis un verset nous vient à l'esprit. Le Seigneur nous a préparé, si on l'a lu le matin, mais si on ne l'a pas lu, ben, on est laissé sans défense, là. Mais souvent, je pense que vous avez expérimenté que dans des moments où dans des moments opportuns, un verset de la parole nous vient à l'esprit. Puis c'est pour ça qu'il faut le mettre dans notre pensée. Il faut qu'on mette la parole de Dieu dans notre pensée. Puis il y a des chants aussi qui vont nous amener la parole de Dieu. Il y a des chants qui c'est des versets de la parole qui sont chantés. Puis ça nous aide. J'aimais beaucoup. Il y avait un groupe au début de notre vie chrétienne qui s'appelait Je veux vous dire. Puis eux, avant chaque chant, ils citaient un, deux, puis même des fois trois versets. Puis, vous savez, en écoutant ces choses-là, ben, on les a, ces versets-là, on les a mémorisés à force de les entendre toujours sur le même ton. Puis, vous savez, de mémoriser, les Juifs, ils mémorisent les Écritures avec des intonations, comme un chant, parce que ça se mémorise plus facilement avec des intonations. On utilise toujours. C'est pour ça que quand on écoute quelqu'un qui va lire un enregistrement d'un verset qui est répété, bien, il est toujours répété de la même façon. Puis c'est plus facile de le mémoriser. Donc, c'est ça. Il faut vraiment prendre toutes les opportunités qu'on a de pouvoir emmagasiner dans nos pensées la parole de Dieu, les choses spirituelles, chercher les choses d'en haut, parce que c'est là qu'on a la bataille se fait là dans notre pensée. Parce que notre pensée, ben, elle se transmet dans des paroles, puis dans des actions. Fait que ça commence dans la pensée. C'est pour ça qu'il faut veiller à notre pensée si on veut avoir de la victoire. Donc, le chant en assemblée, quand on chante, on se réunit, là, c'est pas juste pour occuper le temps des chants. C'est pour ça que c'est bien important d'avoir. Il y a un but là-dedans à chanter. Quand le Seigneur chantait des cantiques avec ses disciples, ben, il y avait un but là-dedans. C'est pas juste pour passer du temps ou pour se divertir, mais il y a un but. C'est pour ça que c'est important de choisir des bons cantiques, des bonnes hymnes, puis des bons psaumes. C'est important qu'on ait de quelque chose qui a de la valeur. Puis aussi, quand on est en assemblée, ben, c'est pas juste de nos préférés, mais c'est quelque chose, surtout comme au repas du Seigneur, mais c'est à propos de ce qui se dit par rapport au Seigneur Jésus. Ça fait que c'est important de bien choisir les cantiques. C'est pas qu'on choisit n'importe quoi, mais on voit. Puis il y en a, il y avait un frère, lui, qui, quand aussitôt que quelque chose était dit, il pensait à un cantique, puis il partageait ce que l'on chantait. Puis, mais c'était toujours en rapport avec ce qui était dit, puis en rapport avec le Seigneur Jésus-Christ. Puis ça. Puis comme on dit, quand on chante ces cantiques-là, ben, à un moment donné, ben, ça nous revient dans la pensée, durant la semaine. C'est important. Et il dit ici, il termine en disant, célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Donc, c'est une partie importante, ça, les cantiques, les hymnes, les psaumes. C'est bien important. Puis on voit qu'on a une richesse là-dedans, là. Vous savez, il y a des cantiques qui ont été composés, des hymnes qui ont été composés. C'est extraordinaire comment des gens peuvent prendre des paroles pour exprimer quelque chose qu'ils ont ressenti. C'est pour ça que dans le temps que les gens sont vraiment proches du Seigneur puis qui apprécient vraiment le Seigneur, les cantiques deviennent riches. Parce que ça parle de leur expérience d'intimité avec le Seigneur. Mais si ceux qui composent des cantiques n'ont pas une intimité profonde avec le Seigneur, ben ça va être un peu banal, là. Ça sera pas, il n'y aura pas la profondeur que ceux qui ont vraiment. Puis des gens surtout qui ont passé des moments vraiment difficiles, comme celui qui a écrit Quel repos céleste, là. Ben, quand on chante ça, c'est beau. Mais quand on réalise dans quelle situation, dans quelles circonstances qu'il a composé ça, bien, il venait de perdre toutes ses filles, là. Il y avait juste sa femme parce que le bateau qui les emmenait en Angleterre avait coulé. Puis il y a juste sa femme qui a été sauvée. Ses filles, je pense qu'il y avait quatre filles, si je ne me trompe pas. Puis il a perdu. Puis il avait perdu aussi dans le feu à Chicago. Il avait perdu beaucoup des immeubles qu'il y avait. Puis il chante, quand on regarde dans ce contexte-là, quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort ou la vie. On voit vraiment que cet homme-là, il vivait quelque chose de profond, là. Ça l'a amené proche du Seigneur. C'est pour ça que quand nous autres, on chante ces choses-là, ben ça a vraiment un sens, là. C'est important. Mais ensuite de ça, au verset 20, il dit, rendez continuellement grâce à Dieu le Père. Donc, si on doit entretenir nos pensées avec des psaumes, des cantiques, des hymnes, des cantiques spirituels, ben, il y a un autre aussi ici qui est important, comme il nous dit ici, rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, d'être reconnaissant. On est porté, vous savez, on demande des choses au Seigneur, on prie, on demande des choses. Est-ce qu'on se rappelle de lui dire merci? Vous savez, il y avait les 10 lépreux qui ont été guéris, puis il y en a juste un qui est revenu pour rendre grâce, rendre gloire au Seigneur Jésus. Puis le Seigneur a dit, les 9 autres, ils n'ont pas été guéris. Ben oui, ils avaient été guéris, mais ils n'ont pas eu le temps d'en revenir. Ils étaient partis sur une autre affaire, puis ils n'ont pas rendu grâce. Vous savez, une chose qui est importante, d'être reconnaissant, là, de rendre grâce, là, d'être reconnaissant pour les bénédictions qu'on a, ça a un effet sur nous aussi, là. Parce que ceux qui, comme un enfant gâté, lui, il prend tout pour acquis, puis il rend jamais grâce. Mais vous savez, quand on fait quelque chose à quelqu'un, puis qu'il l'apprécie, puis qu'il mentionne, il nous rend grâce, mais ça nous encourage à le bénir encore plus. C'est la même chose avec Dieu. Dieu, si on reconnaît nos bénédictions, ben, il va vouloir nous bénir encore davantage. Puis ça, c'est merveilleux. Mais c'est une bonne habitude d'être reconnaissant en toutes choses. Vous savez, oui, des fois, quand on est fatigué ou quelque chose, on arrive le soir pour se coucher, puis on se couche dans un bon lit douillet, puis des fois, c'est l'hospitalité que des gens nous offrent. Puis moi, des fois, je me couche, je me dis merci Seigneur pour un bon lit confortable. C'est vraiment merveilleux. Puis quand je parlais avec ma femme, Denise, elle dit qu'elle aussi a fait la même chose. Quand on est fatigué le soir, puis qu'on a un bon lit pour se coucher, là, puis il y a tellement de bénédictions qu'on a, surtout ici. Puis une chose qui est remarquable, vous savez, je pense que les gens qui sont le plus bénis, c'est ceux qui sont moins reconnaissants. Il y a des gens qui, dans des pays, là, qui n'y ont pas. D'autres, on est vraiment choyés, là. Mais Qu'est-ce qu'on trouve souvent dans la société dans laquelle on vit? Là? Les gens sont mécontents. Ils se plaignent toujours. Puis ils ne sont pas reconnaissants. Ça, c'est le contraire d'être reconnaissant. Si on est reconnaissant, ben, ça va être merveilleux. Il y a un gars qui disait, si tu trouves ta situation est vraiment difficile, il dit, souris, puis ça va changer. Ben oui, ça va être plus facile. C'est ça, ma situation était facile, j'ai souri, puis elle est devenue plus dure. Mais c'est pas ça, c'est d'être reconnaissant pour les choses que le Seigneur fait pour nous. Puis le Seigneur fait des grandes choses pour nous. Vous savez, quand on s'arrête à aller, c'est pour ça qu'on chante, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Mais quand on est reconnaissant, qu'on s'arrête pour être reconnaissant de ce que le Seigneur fait pour nous, ben ça nous fait réaliser combien on est béni. Parce que si si on prend tout pour acquis, on ne réalise pas qu'on est béni. Mais si on arrête pour être reconnaissant envers le Seigneur, on va réaliser que ça va nous rendre reconnaissants encore plus. Plus on va réaliser les bénédictions que le Seigneur fait pour nous, ben plus on va apprécier nos bénédictions. Puis ensuite de ça, il termine avec le verset 21 en disant, vous soumettant, donc être reconnaissant pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, on est reconnaissant, on rend grâce au Père au nom du Seigneur Jésus-Christ, puis dit, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Donc ça, c'est important aussi de se soumettre les uns aux autres. Vous savez, dans le monde, on n'aime pas la soumission. Puis, surtout avec le mouvement féministe, là, quand tu parles de soumission, là, ça ne va pas bien. On va le voir tantôt dans la relation mari-femme. Mais même envers le Seigneur, vous savez, est-ce qu'on est soumis au Seigneur? Est-ce qu'on fait à notre tête ou bien est-ce qu'on est soumis au Seigneur? Puis il faut se soumettre les uns aux autres. C'est l'humilité qui nous amène à se soumettre les uns aux autres. Puis c'est important qu'on le fasse. Il nous dit ici, là. Puis d'être soumis, ça apporte la paix, le repos, puis la joie. C'est vrai, quand on est soumis, là, on est en paix, on est en repos, puis on est aussi dans la joie. Mais la rébellion apporte quoi? Parce que la soumission, la rébellion, c'est le contraire de la soumission. Mais quand on est rebelle, qu'est-ce que ça arrive? Ça apporte de l'agitation, des chicanes puis des querelles. Hein, c'est ça que ça fait. Tandis que si on est soumis les uns aux autres, ça veut dire qu'on n'exige rien. Quand on est soumis les uns aux autres, on n'exige rien. On est content de ce qu'on a, puis on réclame rien pour soi-même. Mais c'est sûr qu'on doit vivre pour le Seigneur, on doit vivre pour les autres. On a vu quand il a parlé et marché dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Le Seigneur Jésus nous a donné un exemple extraordinaire de soumission. Il est égal à Dieu, le Père, mais dans son rôle, il s'est soumis à son Père. Puis, il a fait exactement la volonté de son Père. Puis, c'est pour ça qu'il a accompli une œuvre extraordinaire. Seigneur Jésus, son œuvre de rédemption qu'il a accomplie à la croix du Calvaire pour nous tous, là, ben, ça va être manifesté dans l'éternité. Hein, il est au milieu du trône comme un agneau qui a été immolé. Ça va être manifesté. Puis, c'est la plus belle œuvre, c'est la plus belle histoire d'amour que le monde a pu connaître. C'est l'œuvre que le Seigneur Jésus a accomplie en se soumettant à son Père. Vous savez qu'avant d'aller à la croix du Calvaire, il a dit, Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, non pas toutefois ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Puis il s'est soumis entièrement au Père, puis il est allé à la croix, puis le Père l'a ressuscité. Il est mort, puis le Père l'a ressuscité des morts. Puis c'est une œuvre extraordinaire que toute l'éternité, vous savez, toute l'éternité, on va apprécier l'œuvre du Seigneur. On l'apprécie déjà, j'espère en tout cas, qu'on l'apprécie déjà à cause du fait qu'il nous a sauvés entièrement de nos péchés, puis il nous a donné de devenir enfants de Dieu, puis il nous prépare une place au ciel, puis on va être avec lui, transformé, changé. On va passer l'éternité à réaliser que c'est parce que l'agneau qui a été immolé, il a été immolé pour nous en soumission à son Père pour nous donner à nous la vie éternelle. Fait que pensez-vous qu'on ne veut pas se soumettre à lui? C'est sûr qu'on veut se soumettre à lui, parce que lui, il a vu notre bien. On va le voir quand on va parler de la relation entre mari et femme. Puis je sais que c'est devenu difficile, ça, parce que l'autorité a été abusée. Mais on va voir ça quand on va arriver là, parce que là, maintenant, quand il nous dit de se soumettre les uns aux autres, après ça, ça fait partie aussi de se conduire avec circonspection. Là, il va parler de nos relations. Puis il va parler de nos relations sur trois niveaux. Mari et femme, parents-enfants, serviteurs et maîtres. Donc, c'est tous des endroits où on doit exercer l'autorité-soumission. On doit se soumettre à ces choses-là. On ne verra pas ce soir, mais on va le voir. Mais comme il nous dit ici, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Puis c'est une crainte respectueuse. C'est pour honorer notre Seigneur Jésus-Christ, qui, lui, il nous a aimés. Vous savez, c'est pas dur de se soumettre au Seigneur Jésus parce que il a pris notre bien. Il nous a donné ce qu'il y avait de meilleur pour nous. Fait que c'est pas dur de se soumettre à quelqu'un comme ça. Puis c'est notre exemple aussi. Quand ceux qui sont en position d'autorité, on va le voir avec la soumission, il y a toujours une position d'autorité. Fait que ceux qui sont en autorité, ben, il va donner aussi des instructions. Il donne des instructions à ceux qui doivent être en soumission, mais il donne des instructions à ceux aussi qui doivent être en autorité. Fait que c'est important, ces choses-là. On va voir si ça fait partie de se conduire avec circonspection en rachetant le temps, parce que les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais, c'est que dans le temps qu'on vit, la société dans laquelle on vit, là, ben, il n'y a plus de soumission. Donc, le monde, ils ne veulent pas se soumettre. Puis ils veulent réclamer toujours. Puis on voit que c'est. Mais imaginez-vous si nous, on agit dans la soumission, dans une génération, comme Paul, il parle dans l'Écriture, il nous parle d'une génération perverse et corrompue, on brille comme des enfants de lumière. Ça fait que c'est important de démontrer le caractère puis les instructions que le Seigneur nous a données au milieu de cette génération perverse et corrompue. On ne se laisse pas. C'est pour ça qu'on a besoin d'être renouvelé dans notre intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner la volonté de Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu pour nous autres. On est ses enfants maintenant, puis c'est comme ça qu'il veut nous traiter, puis il veut qu'on marche d'une façon qui va le glorifier. Fait qu'on est arrivé à notre temps. Je vais maintenant vous donner la possibilité de prendre votre micro. Puis, si vous avez des questions ou des commentaires, ben, on a le temps d'en jaser ensemble pour un temps.
Une question, Gérald, encore une fois.
OK.
Le verset 20. Rendez grâce continuellement. Rendez continuellement grâce à Dieu, le Père, pour toutes choses.
Oui.
Est-ce que ça l'inclut parfois lorsque nous passons à travers la souffrance?
Oui.
Est-ce que ça s'applique, ce verset-là?
Oui, ben oui, parce que des toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Fait que, puis on dit des fois que dans le cantique, je veux te rendre grâce pour toutes les épreuves. Elle purifie ma foi et me façonne à toi. Puis le Seigneur, il fait son œuvre. S'il permet une souffrance c'est pas que le Seigneur veut nous faire souffrir, mais il permet la
Fermé.
souffrance pour nous former à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Ça fait
C'est un verset difficile que tu as nommé Romains 8, 28.
Oui, rendez
C'est très
grâce à tout.
difficile.
Oui, c'est ça. Mais je pense que ça devient moins difficile pour moi, en tout cas, ça devient moins difficile quand je l'accepte comme la volonté de Dieu pour moi. Si je passe à travers des douleurs ou des épreuves, c'est que le Seigneur a permis que je passe à travers. Puis aucune tentation ne vous est survenue ou aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Mais avec la tentation, il pourvoira aussi au moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc, le Seigneur, il permettra pas qu'on soit éprouvé au-delà de ce qu'on peut supporter.
Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu.
Exactement.
Dans les bons et les mauvais jours.
Ouais. Si dans les épreuves, on rend grâce à Dieu, ça rend l'épreuve beaucoup plus facile.
Oui, c'est certain.
que si on se rebelle, vous savez, des fois, la perte d'un enfant, c'est difficile, c'est pas facile, c'est la perte d'un enfant. Puis il y a des gens, des fois, qui vont rester dans l'amertume souvent, puis ils vont même pas vouloir être sauvés parce qu'ils sont en rébellion contre Dieu, ils n'acceptent pas la volonté de Dieu. Tandis que si on accepte la volonté de Dieu, ben, on ne comprend pas nécessairement pourquoi, mais on sait que c'était sa volonté qu'il l'a permis que.
On
Merci,
a
Gérard.
un bel exemple avec Job.
Ouais, exactement.
L'épreuve est au maximum dans sa vie, là.
Oui.
Il a tout perdu, ses enfants, sa
Ouais.
fortune. En plus, il était dans son corps, dans sa chair.
Ah oui.
Et même
Et,
sa femme l'a
ouais.
découragé.
Maudit Dieu, puis il meurt. Oui.
Oui.
Mais je disais ça à un moment donné. Job n'aurait jamais choisi de lui-même de passer toutes ces épreuves-là, mais après qu'il les a passées, il n'aurait pas voulu que ce soit autrement. Parce qu'il
Exactement. Il
dit,
avait entendu
j'avais
à la
entendu,
fin.
mais
Il a vu.
maintenant mes yeux t'ont vu.
Ouais.
Parce qu'à travers cette épreuve-là, il a vu la présence du Seigneur d'une façon plus grande. Des fois, vous avez des difficultés.
Merci là, Gérald, pour d'être reconnaissant pour les bénédictions de Dieu. Puis souvent, lorsque Dieu nous bénit, on ne le dit pas ouvertement parce qu'on a plein de requêtes de prière. Sont aussi épaisses comme un bottin téléphonique. Mais Dieu répond aux prières. On oublie de le mentionner que Dieu nous a répondu aux prières. Hein?
Oui,
Puis
c'est
d'être
vrai.
reconnaissant pour ça.
Ouais, c'est comme un enfant qui demande quelque chose, on lui donne, puis tout de suite, il demande d'autres choses. Au lieu
Ouais.
d'apprécier, ouais, c'est ça. Aurel avait quelque chose à dire, je pense. Aurel?
Ben, je disais que Job fallait qu'il y ait une force terrible pour passer à tout ce que tu as passé.
Oui. Puis c'est ça, le Seigneur, il connaît la force qu'on a, puis c'est comme, il permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces.
Même si on a l'impression qu'il n'est plus là dans l'épreuve, il nous abandonne pas non plus.
Non, ouais. C'est ça, ouais. Ouais. Il y a un cantique en anglais qui dit quand la noirceur voile, when darkness veils, quand la noirceur voile son doux visage, je me repose sur sa grâce inchangeante. C'est la foi, là, c'est par la foi qu'on peut avancer, là. Quand on ne voit plus, là, on avance par la foi. C'est comme un avion qui vole dans la brume, là, puis qui ne voit rien, là, mais il se fie aux instruments.
On voit aussi, Gérald, que c'est l'exemple de Pierre aussi, qui était toujours comme on dit ici, il avait les pieds dans les plats. Mais grâce à ça, c'est le Seigneur qui l'a formé. C'est, comme on dit, il s'est mis dans les épreuves lui-même. Il est allé, comme on dit, au-devant. Mais le Seigneur, à travers tout ça, l'a formé à travers tout ce que, comme on dit, tous les problèmes qu'il a dit. Même il avait dit au Seigneur, jamais ça allait arriver qu'il l'arrêterait. Le Seigneur, il a dit, arrière, Satan! Il, comme on dit, ouais, comme on dit, c'est un apôtre, un disciple que le Seigneur, il s'est reculé. On dit qu'il n'a pas changé. Il a appris une leçon, mais il a continué quand il a dit que Seigneur, jamais je te renierai. Ils l'ont tout abandonné, mais lui, il était plus loin. Il était plus loin dans son implication. Il est allé dire, jamais ça arrivera. Puis on sait qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est ça qui l'a formé.
Mais aussi, il a sorti du bateau sur la parole du Seigneur, il a coulé, mais le Seigneur l'a. Ouais.
On parlait tantôt des souffrances qu'on accepte avec le Seigneur. Moi, je pense que d'avoir vécu certaines choses, qu'on voit que c'est la différence entre les chrétiens et les inconvertis, de voir des personnes qui disent ou qui nous ont dit, Comment vous avez fait pour passer à travers?
Ouais.
Mais c'est le Seigneur qui nous a aidés à passer au travers.
C'est
Je
ça.
pense que c'est une grande différence de voir entre une personne convertie et une
Ouais.
personne qui ne connaît pas le Seigneur.
Mmh.
Un peu comme Job, qui avait, comme la dame vous avait dit tantôt, Job avait ses yeux sur l'Éternel. Alors, c'est pour ça que l'Éternel l'a aidé. On peut voir qu'il l'a aidé à passer à travers tout ça. Mais pour nous, on rencontre le même Dieu. Et la parole nous enseigne aussi que c'est là qu'on voit comme dans l'Épître de Jean, c'est là qu'on va voir la différence entre les frères et les inconvertis. Si vous avez de l'amour les uns, mais au juste, si le Seigneur est là, en fait, ça nous aide dans notre témoignage. Ça veut dire qu'à un moment donné, on rend témoignage à la personne du Seigneur sans même des fois parler. En voyant ce que les gens voient dans notre conduite devant les épreuves.
Ouais.
Pas si
Puis
vous êtes d'accord avec moi là-dessus,
oui,
mais.
oui, oui. Mais aussi, le Seigneur, il nous forme à travers ces choses-là. Je
Oui.
lisais, à un moment donné, j'étais dans une épreuve, puis je lisais une pensée de Darby qui disait: on aimerait toujours naviguer sur une mer calme avec un vent favorable, mais ce n'est pas comme ça que les bons marins se forment. Il faut expérimenter. Puis dans le deuxième épître de Corinthiens, le premier chapitre, il y a un beau passage par rapport à ça. Il nous dit au verset 3: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation, puis Paul, quand il se met à multiplier les mots, là, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction, car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Vous savez, des fois, on a des gens qu'on sait qui souffrent. Puis, fait que nous, quand on regarde nos petites affaires, là, on dit, ouais, non, ça ne vaut pas la peine d'en parler, là. Puis, il y a un ministère dans la souffrance. Comme ce soir, on est allé visiter avec mon frère Serge, on est allé visiter un frère, là, puis on est vraiment impuissant, là. On peut pas, il souffre, puis, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Mais là, on se dit, ben, moi, là, mon petit bobo, là, ça ne parle pas, là, ça ne vaut pas la peine. Fait que ces gens-là, ils deviennent un encouragement. Puis quand quelqu'un passe à travers une souffrance, si on n'a jamais connu ça, comment est-ce qu'on peut consoler ceux qui passent dans l'affliction? Mais si on l'a vécu, là, on peut avoir des paroles de consolation pour eux autres. Parce que leur montrer comment le Seigneur nous a consolés dans ces situations-là.
On voit que par ce verset-là, quand tu viens de parler, on voit que c'est vraiment biblique. On voit que c'est la volonté de Dieu.
Ouais.
Dieu le permet comme ça. C'est comme tu disais tantôt, si on l'accepte, ben, ça va être pour nous, peut-être plus facile à la supporter. Ben, Dieu, tu es en contrôle, tu permets ça fait mal, je souffre, mais je ne peux pas faire autrement.
Ça. Et aussi, une chose, quand on sait qu'on arrive au bout de nous-mêmes, là, qu'on est au point qu'on n'est plus capable, là, mais là, on sait que le Seigneur va nous délivrer.
Oui.
Et parce
Mais
qu'il permettra.
moi, il y a un verset que je me rappelle, que je veux me rappeler souvent, comme Dieu ne permet pas qu'on soit tenté ou éprouvé au-delà de nos forces.
Ça, exactement. Ouais.
Alors, sur ce bord-là, ça m'encourage.
Ben oui. Marc, t'avais-tu quelque chose à dire?
Ouais, ben ça me fait penser quand on parle de nos petites épreuves. C'est la vie de Haralam Popov qui avait été emprisonné pendant 10 années à cause de sa foi en Russie. Puis souvent, là, il battait, puis il mettait dans un trou dans la terre avec des vêtements trop petits qu'il pouvait pas attacher, puis il était froid, puis presque pas nourri. Puis dans ces périodes-là, il dit que quand il n'en pouvait plus, là, il sentait comme le Seigneur le réchauffer, le prendre dans ses bras, puis il dit, pour avoir vécu ces moments-là avec le Seigneur, ça valait la peine d'avoir passé tout ce temps-là en prison, puis d'avoir été battu.
C'est ça, c'est une expérience qui devient merveilleuse parce que la présence du Seigneur, on en a besoin, puis il ne nous laisse pas tomber. Et je pense qu'on est arrivé à notre temps. Ce qu'on va terminer avec un mot de prière. Puis ceux qui veulent continuer à jaser, on peut le faire. Ceux qui doivent, ils doivent partir, mais ils pourront le faire. Seigneur notre Dieu, on te remercie pour ta parole. Seigneur, on sait que ces choses-là, c'est des choses qu'on a besoin d'apprendre. C'est des choses qu'on a besoin d'apprendre par l'expérience. Puis on te remercie que tu nous fais passer à travers ces choses-là. Merci, Seigneur. Puis qu'on doit se conduire avec circonspection. De ne pas perdre notre temps ici sur la terre, mais de racheter le temps parce que les temps sont mauvais, les jours sont mauvais. Fait que donne-nous, Seigneur, de profiter de toutes les occasions qu'on a de te servir pour comme appréciation pour ce que toi tu as fait pour nous. On te remercie, Seigneur. On sait que notre temps s'avance toujours, puis un jour, bien, on va être appelé dans ta présence, mais c'est le temps présentement de te servir. Fait que aide-nous, Seigneur, à être des bons serviteurs fidèles jusqu'au bout. Et si on doit souffrir, on sait, Seigneur, que tu vas nous donner la capacité de le supporter, puis on veut se confier en toi pleinement. Au nom et pour la gloire de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Amen.